Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec Manon, Ella et moi-même, nous recevons Madame Sologoub, sénatrice nivernaise, pour parler de la représentation des femmes en politique. Bonjour Madame Sologoub. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ?
Alors, bonjour mesdemoiselles et jeunes hommes. Merci beaucoup pour votre invitation. Pour me présenter en quelques mots, oui, maintenant je suis donc sénateur de la Nièvre depuis 2017, récemment réélue. Et auparavant, j'ai été pendant 9 ans maire à Neuvy-sur-Loire. Et je suis moi-même née à Nevers et j'ai grandi à Nevers. J'ai passé le bac au lycée Jules Renard à Nevers.
D'accord. Et durant votre carrière, vous êtes-vous sentie impactée, voire handicapée par votre statut de femme ?
Alors, carrière, pour moi, c'est un peu particulier parce que j'ai choisi... j'ai été diplômée d'une école supérieure de commerce, école supérieure de commerce de Rouen. Et j'ai choisi, j'en suis fière, d'avoir une première partie de vie que j'ai consacrée à mes enfants. Donc pendant 25 ans, je n'ai pas considéré que c'était un handicapant d'être une femme. Au contraire, j'ai considéré que c'était une grande chance. Et j'ai eu le bonheur donc, de m'occuper de mes enfants. Par contre, après, quand on fait ce choix-là, évidemment, c'est plus compliqué de rebondir et de repartir. Voilà. Donc en fait, les femmes ont cette chance d'être mères et de pouvoir à un moment donné peut-être choisir d'être proche des enfants. Mais après, évidemment, c'est un virage difficile à négocier professionnellement. Donc c'est à la fois une chance et un risque qu'on prend.
Et donc, quand vous êtes retournée dans le monde du travail, est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez encore des dossiers moins importants qu'un homme ?
Alors ça non, parce que dans la mesure où je suis investie en politique, à vrai dire, je choisis moi-même mes dossiers. Bon, par contre, je pense quand même un petit peu qu'on est obligé de faire ses preuves deux fois plus. Comme je savais qu'on allait tourner autour de ce thème, je réfléchissais à mes premiers dossiers comme élue femme, comme mère. Et je me souviens très bien quand j'ai rencontré pour les premières cérémonies mémorielles les représentants des associations du monde combattant. Alors, je précise que c'était il y a quand même quelques années. Je pense que maintenant, les mentalités ont complètement changé. Et c'était un monsieur d'un certain âge qui était ancien combattant et je voyais vraiment qu'il était très, très ennuyé que ce soit une dame encore un petit peu jeune qui soit chargée de faire des cérémonies mémorielles parce que ça lui semblait pas sérieux du tout. Voilà, il m'a dit, je me demande comment une petite dame comme vous, ça peut organiser des 8 mai ou il n'avait pas confiance. Bon, après, j'ai gagné sa confiance, on a très bien travaillé ensemble, mais je pense qu'il aurait été d'emblée conforté si ça avait été un homme pour gérer la situation. Donc c'est plutôt ça, c'est qu'on est obligé de faire deux fois plus nos preuves et de prouver que ben on peut être une femme et compétente. C'est pas évident d'emblée pour certaines personnes. Voilà.
Vous êtes sénatrice, pensez-vous avoir eu plus de mal à accéder à votre poste par rapport à un homme ?
Non, moi je pense pas, parce que au contraire, une femme peut incarner autre chose en politique, peut incarner une forme de rassemblement, de consensus. Moi, je pense que c'est un petit peu ça qui me porte, qui m'a permis aussi d'être réélue, à savoir d'être dans l'ouverture, peut-être d'avoir une touche d'humanité que j'associe à ma féminité, qui fait que, au contraire, ça me permet de gagner un peu plus la confiance des gens en disant que, voilà, j'essaie d'avoir un mandat vraiment dans l'écoute et l'humanité, et ça, c'est peut-être lié aussi à ma féminité. Donc, au contraire, moi, ça fait partie, je pense, de mes atouts. Par contre, je le disais pour la réponse précédente, la réserve, tout le temps, c'est qu'on est obligé de faire quand même deux fois plus ses preuves.
D'accord. Et donc, je le rappelle, nous sommes ici pour parler de parité politique. Et donc, en rapport avec ce sujet, est-ce qu'il y a un événement qui vous a particulièrement marqué ?
Alors, par rapport à la parité, moi, je garde un mauvais souvenir du moment où les conseillers départementaux, le conseil départemental a changé de configuration et que les élus ont été élus par binôme, un binôme homme-femme. Alors, je sais que beaucoup d'élus ne seront pas du tout du même avis que moi et me diront « c'est une très bonne chose parce que ça a permis aux femmes d'arriver en nombre égal par rapport aux hommes ». Sauf que, combien de fois, et je l'entends encore, on dit toujours « la femme, c'est la suppléante du monsieur ». Voilà, c'est constamment ça, le binôme homme-femme, même encore dans l'esprit des gens, me dit « ah mais oui, mais une telle, c'est la suppléante d'un tel ». Non, c'est pas sa suppléante, c'est sa binôme, ils ont été élus tous les deux. Et voilà, c'est un petit peu la réserve, c'est que quand les choses sont imposées, bah évidemment, de façon mécanique, la parité arrive. Par contre, quand ça se fait de façon naturelle, eh bien, on met moins en doute la légitimité de la femme. Alors au Sénat, on n'a pas encore de parité obligatoire. Par contre, on voit qu'elle arrive spontanément, la parité. Là, on doit être un bon tiers de femmes et à chaque renouvellement, le nombre de femmes monte. Et moi, je préfère que les choses se fassent naturellement plutôt que le fait d'être imposé. Alors, je vais peut-être devancer votre question suivante. Quels sont les obstacles, les freins? En fait, je pense que c'est les femmes qui s'interdisent elles-mêmes. Moi, j'ai vu, quand j'étais mère, et puis même dans, un petit peu dans mes expériences politiques, quand on va chercher des femmes, en général, il faut aller les chercher. Et la première question, dans 99% des cas, les femmes disent « Ah mais oui, mais je ne serais pas capable ». Voilà, il faut vraiment, je pense que le principal frein, c'est pas tellement le regard des hommes, le principal frein, c'est que les femmes ont peur de pas y arriver. Voilà, c'est là qu'est toute la difficulté.
Donc, vous y avez déjà un peu répondu, mais l'introduction des quotas de genre pour assurer une représentation équilibrée au sein des instances politiques, quel est votre avis sur la question ?
Alors, j'y ai un peu répondu, mais pas complètement. Moi, je ne suis pas très favorable parce que je me dis que le jour où les femmes auront pris confiance en elles, les quotas vont nous pénaliser parce qu'ils vont nous empêcher de passer les 50%. Et combien de concours maintenant en médecine ou dans les concours de hautes études, on se rend compte que les filles sont plus nombreuses que les garçons, parce qu'une fois que les filles ont compris qu'en fin de compte, elles sont capables de faire tout à fait aussi bien que les garçons, et bien comme elles réussissent tout à fait aussi bien, attention, parce que les quotas, c'est pénalisant aussi, ça empêche de passer les 50%.
Mais pour l'instant, vous pensez qu'ils sont respectés ?
Alors non, par endroit, on parlait du Sénat, on est à un tiers. Dans les conseils municipaux, c'est pareil, attention, parce que oui, quand on parle de vie politique, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le Sénat. Hein. Il y a tout l'engagement de proximité dans les conseils municipaux. Il y a des petites communes où la parité, c'est compliqué, dans un sens comme dans l'autre. Il faut juste trouver un certain nombre de gens de bonne volonté sans s'occuper de savoir si c'est des hommes ou des femmes. Dans certaines équipes, il y aura plus d'hommes. Dans certaines équipes, il y aura plus de femmes. Moi, à titre personnel, quand j'étais maire, au début de mon second mandat, je voulais avoir plusieurs adjointes femmes qui étaient très motivées, qui avaient un petit peu de temps et très compétentes. Et en fait, j'étais empêchée parce qu'il y avait trop de femmes. Donc c'est à double tranchant. Hein. C'est à double tranchant. On a été obligé de demander à des hommes qui étaient moyennement motivés et d'écarter des femmes qui présentaient vraiment un profil parfait. Donc c'est à double tranchant d'en faire une doctrine trop rigoureuse. Moi, je ne suis pas très favorable.
Vous avez parlé d'autocensure, mais selon vous, il n'y aurait-il pas d'autres raisons qui font qu'il est plus difficile pour une femme d'accéder à la politique ?
Tout simple, c'est la vie de famille. Voilà, c'est tout, absolument simple et les gens ont du mal à le comprendre. C'est que même si les jeunes couples ont beaucoup changé, maintenant je vois des jeunes papas, mes fils changent leur bébé et le fonctionnement des couples est tout à fait différent. Malgré tout, on peut pas quand même. Il y a des choses qu'on ne peut pas lever. Une maman, elle a envie d'être chez elle le soir pour faire les devoirs, garder les enfants, même si le papa le fait. Mais parfois, voilà, c'est un petit peu moins systématique de pouvoir se libérer par rapport à la vie de famille et les enfants. L'âge idéal pour les femmes, quand on a plus de disponibilité, c'est quand les enfants sont élevés. Mais moi-même, je suis sénatrice, mais je suis mamie aussi. Et quand je prends les enfants en vacances à la maison, ben en fait c'est compliqué parce que quand c'est le papy qui est élu, ben mamie garde les enfants, fait les crêpes et donne le bain le soir. Mais quand c'est mamie qui est sénatrice, et ben on est drôlement coincé, c'est compliqué parce que il y a quand même viscéralement cet attachement à la vie de famille qui nous coince un petit peu. Moi je pense que c'est pas la loi qui peut changer ça, mais c'est viscéral. À un moment donné, on est un petit peu plus tiraillé quand on est une femme, on a un petit peu plus de contraintes familiales. Et puis après tout, tant mieux parce que c'est aussi ça qui fait le bonheur, mais c'est un peu plus compliqué de jongler. Et je vois dans les conseils municipaux, quand on a des jeunes femmes, c'est embêtant, les conseils le soir, parce que y a les petits, il y a ci et ça. Mais finalement, c'est exactement la même chose que pour la vie professionnelle. Quand il y a un enfant qui est malade et qu'on appelle la maman, elle est coincée parce que son gosse est malade et puis qu'en même temps, on a besoin d'elle au boulot. C'est finalement les mêmes contraintes. C'est on est des femmes et puis il ne faut pas s'en lamenter, tant mieux. Mais bon, voilà, on ne peut pas être partout en même temps.
D'accord. Et pour revenir donc à votre statut de sénatrice, comment utilisez-vous votre position pour promouvoir des réformes législatives visant donc à renforcer la représentation des femmes ?
Alors moi j'ai dans mon groupe politique, donc l'Union Centriste au Sénat, nous avons la présidente de la délégation aux droits des femmes. Tout le temps, c'est un poste qui revient constamment à une sénatrice centriste, qui pourrait être un sénateur d'ailleurs, parce qu'on a des sénateurs dans ce groupe de travail. Donc là actuellement c'est la sénatrice de Lyon, Dominique Vérien, qui est présidente de la délégation aux droits des femmes. Donc alors je ne fais pas partie de ce groupe de travail, mais nous suivons ses travaux et on compte sur elle à chaque fois qu'il y a dans chaque texte législatif qui arrive. elle veille tout le temps à mettre des amendements qu'on soutient en disant ben, attention, ben, qu'on ait bien le réflexe toujours d'associer, comment dirais-je, ou d'avoir cette lecture en disant il faut bien toujours réfléchir parité, réfléchir égalité, donc introduire toujours des choses là-dedans. Moi, je suis moins active dans cette obligation d'avoir des parités obligatoires que par contre dans la défense des droits des femmes, en ce sens qu'il y a des femmes qui sont vraiment opprimées, battues, voilà, qui sont en grande difficulté, qu'elles puissent toutes pouvoir être défendues. Ça, c'est quelque chose qui me tient le plus à cœur, qu'il n'y ait plus aucune femme qui ne soit pas écoutée dans notre société.
Et donc, de votre point de vue, comment votre parti favorise-t-il la diversité et l'inclusion des femmes, même si vous y avez déjà un petit peu répondu encore?
Oui, voilà. Alors, l'Union Centriste, c'est plutôt un groupe, plutôt qu'un parti, qui est ouvert, puisque dedans siègent des personnes avec des sensibilités un petit peu différentes. Pour moi, l'intérêt d'être à l'Union Centriste, c'est que je vote ce que je veux. Donc, comme ça, je n'ai pas de contraintes, justement, je ne suis pas dans un parti. Mais oui, oui, on porte... par l'intermédiaire de la délégation aux droits des femmes, vraiment la défense du droit des femmes. Plus la défense du droit des femmes que la défense de la parité, me concernant.
Et donc, quelles initiatives soutenez-vous pour encourager la participation des femmes en politique, si vous en soutenez?
Alors, pas une initiative globale, je dirais que j'ai plutôt une petite démarche de fourmi de ce côté-là, c'est-à-dire que ça m'arrive, bah, on est comme vous, on a une vie sociale, des gens qui me disent « oh là là, t'as été maire, t'es sénatrice », et puis de dire « mais pourquoi pas toi ?» C'est plutôt une démarche à taille humaine, plus un travail de dentelle, parce que ça m'arrive de détecter chez des amis, je me dis tiens, je suis sûre qu'elle, ça lui irait comme un gant. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé à l'occasion d'un dîner complètement imprévu, de parler de ce que je faisais, et quelques mois plus tard, cette amie est devenue maire d'une ville assez importante de la Nièvre. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt aussi, au moment des élections, ça m'est arrivé d'avoir pareil, une amie de collège qui me dit, oh j'irais bien, mais j'ose pas, je sais pas. C'est plutôt à ce niveau-là, c'est au niveau individuel. J'en fais pas une doctrine générale, mais toutes celles qui hésitent à y aller, de leur dire « mais qu'est-ce que tu risques ?» Voilà, lance-toi, tu iras bien. Voilà, t'auras fait une campagne pour rien, c'est pas très grave, t'auras appris, c'est toujours intéressant. C'est plutôt ça, c'est de réconforter au quotidien et puis de dire aux petites filles aussi, comme vous, vous devez le dire aussi, mais tu peux être médecin, maçon, agriculteur. Enfin, moi je garde le masculin. Bon, parce que quand j'étais mère, on me disait Madame le maire, alors du coup, je ne féminise pas trop les noms de profession. Mais bon, peu importe, ça c'est un détail. Mais par contre, oui, ou agricultrice, enfin peu importe, tu peux être tout ce que tu veux. Voilà. Il ne faut pas que les petites filles aient un plafond de verre, il ne faut pas que les femmes aient un plafond de verre. Après que ce soit par le biais d'une parité obligatoire, bon, ça, voilà. Mais que toutes celles qui ont envie, eh ben, on ne se l'empêche pas, on ne s'interdit rien et on fait ce qu'on a envie de faire. Pareil pour les garçons, hein. Il y a eu ce film, moi je me souviens, quand mes garçons étaient petits, un garçon qui a envie d'être danseur étoile, il ne faut pas qu'il s'interdise non plus. Hein. C'est, voilà, on peut avoir des hommes sages-femmes, il faut que ça fonctionne dans les deux sens.
Et dans ce contexte-ci, est-ce que vous avez des projets justement pour augmenter la participation des jeunes femmes en politique, au-delà des encouragements
du quotidien?
Non, j'ai pas d'engagement particulier pour ça. Je vous dis, faut se méfier parce que c'est à double tranchant ces histoires-là. Non, c'est bien, bravo, lancez-vous et tout, mais j'en fais pas un cheval de bataille fondamental. Par contre, surtout pas le plafond de verre. Voilà, c'est vraiment ça. Mais témoigner, ça c'est déjà une bonne chose. Mais par contre, en termes législatifs, je peux pas dire que je pense pas qu'il manque grand-chose maintenant. Tout est là, faut juste y croire, quoi.
Et une dernière question, est-ce que vous pensez qu'au Sénat, il y aurait une ambiance sexiste par moment?
Écoutez, alors, des sexistes, il y en a partout. Pas plus au Sénat qu'ailleurs. moi, je le ressens pas. Je l'ai jamais vraiment ressenti. Alors, une fois, c'était très drôle, c'était un chef d'une très grande entreprise nationale qui était auditionné, et c'était vraiment un goujat, tout simplement, et qui a traversé la salle pour venir s'asseoir, puisque c'est lui qui était auditionné, et n'a salué que les hommes. Voilà, donc je pense, il s'est dit peut-être, les femmes sont forcément des collaboratrices, mais en fait, c'est ridicule, parce qu'on salue aussi les collaboratrices. Donc là, c'est pas une question de sexiste, c'est juste quelqu'un de très mal élevé. Donc ce jour-là, on se dit, bon, bah, quelqu'un de mal élevé, on le méprise, point, la ligne, voilà. Mais non, à part ça, moi, j'ai pas ressenti beaucoup. Je dirais que la différence au Sénat, c'est que, homme comme femme, il y a des gens qui sont respectueux, d'autres qui le sont pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de loi contre la bêtise humaine, hein, ça, de toute manière. C'est quelque chose qu'il faut tout le temps se répéter, nous qui faisons les lois, c'est qu'il y a des choses... C'est comme le fait d'être des mauvais citoyens ou des mauvais parents. Il n'y a pas de loi contre ça.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette discussion très enrichissante sur la représentation des femmes en politique. J'espère que cette interview incitera nos auditrices à s'engager davantage en politique. Pour toutes celles et ceux qui sont arrivés en cours d'émission, vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité de l'interview sur le site internet de BAC FM. Et encore une fois, merci Ella, merci Manon et merci Madame la Sénatrice.
Alors, merci beaucoup à vous. Et puis, avant de s'engager en politique, surtout que tout le monde, garçon comme fille, n'oublie pas d'aller voter. Voilà. Bonne journée à tous.